Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Rare à l'écoute, la chaîne de podcast dédiée aux maladies rares. Aujourd'hui, nous continuons d'explorer la polyradiculoneuropathie inflammatoire démyélinisante chronique, ou PIDC. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Yann Perreillon. Professeur Perreillon, bonjour.
Bonjour.
Professeur Perreillon, vous êtes neurologue, professeur des universités, praticien hospitalier et chef du service d'exploration fonctionnelle au CHU de Nantes. Vous êtes également coordonnateur du Centre de référence des maladies neuromusculaires rares à Nantes et co-rédacteur du tout récent PNDS, le Protocole national de diagnostic et de soins sur les PIDC. Alors, professeur Perreillon, nous abordons aujourd'hui le diagnostic des PIDC. Et pour débuter notre entretien, quels sont les signes cliniques qui font évoquer une neuropathie périphérique et qui justifient la prise d'un avis neurologique ?
Alors, on est sur des choses qui sont encore assez larges, à savoir des fourmillements au niveau des extrémités, des engourdissements, le fait de moins bien sentir le sol sous les pieds. Cela peut être aussi des troubles de l'équilibre, une certaine instabilité, un petit peu comme lorsque l'on est sur un bateau. Ou encore, ça peut être une atteinte motrice avec une diminution de la force. Au niveau des jambes, ça peut se traduire par un pied qui accroche par terre quand on marche et on va buter facilement sur un tapis ou sur un trottoir, ou avoir encore le pied qui tape un petit peu alors que ce n'était pas le cas avant. Au niveau des membres supérieurs, il peut s'agir d'une diminution de la force pour ouvrir un pot de confiture, une bouteille par exemple, ou ce genre de choses. Là, on est sur des choses qui sont très peu spécifiques, mais qui sont évocatrices pour un médecin traitant, pour orienter vers le neurologue avec une suspicion de neuropathie. J'aurais tendance à dire que toute suspicion de neuropathie doit passer devant un neurologue, parce qu'après, il y a tout un bilan à faire, quelle que soit la neuropathie, pour essayer d'en identifier la cause.
Et parmi ces symptômes que vous avez décrits, professeur Perreillon, quels sont ceux qui peuvent faire évoquer directement une PIDC ?
Alors là, en fait, c'est une question qui est beaucoup plus difficile, parce que tous les symptômes tels que je vous les ai décrits peuvent correspondre à une PIDC. Néanmoins, des éléments qui pourraient plus orienter vers une PIDC, je dirais une distribution des troubles prédominant aux membres supérieurs et respectant un petit peu les membres inférieurs. Ou encore un déficit moteur qui serait plus proximal, c'est-à-dire à la racine des cuisses par exemple, plutôt qu'au niveau des pieds. Et à ce moment-là, ça se traduirait par des difficultés à se lever d'un siège ou de se relever de la position accroupie. Ou encore, lorsque le médecin traitant va taper les réflexes, une disparition complète des réflexes tendineux, vous savez, quand on tape avec le marteau sous le genou au niveau de la cheville, bien une absence complète de ces réflexes, ça peut être un petit marqueur de PIDC. Et puis, dernier élément, parfois aussi une atteinte au niveau de certains nerfs crâniens, c'est-à-dire parfois une diplopie, une vision double, une paupière qui tombe ou une atteinte de la face, peuvent être des éléments orientants également.
Alors, concernant le diagnostic de PIDC en tant que tel maintenant, sur quels examens repose-t-il ?
Alors, avant tout, c'est pas compliqué, là, c'est l'électroneuromyogramme. Là, c'est l'examen qui va faire le diagnostic, qui va mettre en évidence des anomalies de la conduction nerveuse, le plus souvent des ralentissements de la conduction nerveuse, un petit peu hétérogène, plus sur certains nerfs que sur d'autres. Il pourra montrer aussi des pertes en fibres nerveuses, il pourra montrer des blocs de la conduction nerveuse qui seront corrélés avec une gêne motrice. C'est vraiment l'examen de choix pour ça, avec ces petits chocs électriques et les petites piqûres que l'on peut faire dans les muscles. Parmi les autres examens, il y avait classiquement la ponction lombaire pour rechercher une inflammation du liquide, mais le fait est qu'elle est de moins en moins pratiquée et qu'elle ne fait plus partie des examens que l'on fera dans les formes les plus typiques. Et puis, à contrario, les examens qui se développent de plus en plus, on peut citer dans l'imagerie les IRM au niveau des plexus brachial ou plexus lombosacré, pour mettre en évidence des anomalies de signal, des troncs nerveux qui seraient un petit peu trop blancs sur l'imagerie. Parfois, l'échographie nerveuse aussi, en imagerie. Et puis, le dernier examen auquel on pense en matière de PIDC, là, on est un petit peu plus agressif, c'est réservé aux cas difficiles, c'est la biopsie nerveuse. On va, en sous-anesthésie locale, prendre un petit bout de nerf, généralement en arrière de la cheville, pour le regarder au microscope. Mais on est sur des cas de figure plus rares, d'une part, et plus difficiles en termes de diagnostic.
Et est-ce qu'il existe des critères précis pour ce diagnostic de PIDC ?
Alors, oui, il existe existe des critères précis, il existe même de très nombreux critères. Ça fait au moins une vingtaine d'années que les neurologues spécialistes de la chose se réunissent au niveau international régulièrement pour établir ces critères. Ils sont parfois extrêmement stricts pour affirmer le diagnostic. Et en fait, ils ont surtout un intérêt pour les essais thérapeutiques, c'est-à-dire lorsque l'on veut évaluer une nouvelle molécule, un nouveau médicament dans le traitement des PIDC. Le fait est qu'il faut, dans ces situations-là, avoir des patients dont on sera sûr à 100% du diagnostic et qui seront très homogènes. Et donc, on a besoin de respecter ces critères. Ces critères, ce sont principalement des critères ENMG, avec telle anomalie de conduction nerveuse, en distal, c'est-à-dire aux extrémités, ou en proximal, ou sur les troncs. Vous voyez, c'est des choses très, très électriques, ces critères. Et on les utilise moins dans la pratique clinique, où là, on va faire intervenir beaucoup plus le tableau global clinique du patient, de quoi il se plaint, depuis combien de temps, comment ça évolue, les données de l'examen neurologique, les données de l'ENMG, éventuellement de la ponction lombaire ou de l'imagerie.
Et pour conclure, professeur Péréon, que faire une fois que ce diagnostic de PIDC est posé?
Alors, une fois que le diagnostic est posé, eh bien, il faut initier la prise en charge thérapeutique parce que là, on rentre dans un champ d'affections neuromusculaires pour lesquelles il y a des traitements à proposer. Et ce genre de choses se fait en général en milieu hospitalier et même le plus souvent dans les structures spécifiquement dédiées, à savoir dans les centres de référence et les centres de compétences identifiés pour les maladies neuromusculaires. Il y en a une bonne quinzaine facilement répartis en France, donc il y a une bonne distribution géographique et normalement on est toujours à moins de 200 km d'un centre de référence ou de compétences en France.
Eh bien, merci mille fois, professeur Péréon, de nous avoir fait mieux connaître cette maladie rare qu'est la PIDC. Quant à nous, chers auditeurs, si vous désirez aller plus loin dans la connaissance de cette pathologie, nous vous donnons rendez-vous sur notre site internet www.rarealecoute.com où de nombreuses informations sont à votre disposition. Nous vous remercions de votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous sur la chaîne Rare à l'écoute pour un prochain numéro sur cette maladie rare. À très vite !